Dans la deuxième partie de la Grande Table, nous recevons ce midi une grande documentariste américaine, réalisatrice et productrice. Norma Percy et son complice Brian Lapping ont couvert crises et conflits du XXe siècle comme autant de temps forts de notre histoire. Du Watergate aux coulisses de la guerre en Iran, des liens entre l'Iran et l'Occident, d'Israël et les Arabes. Bonjour Norma Percy.
Hello.
Merci d'être avec nous. Et bonjour à votre voix française, Pascal Fougère.
Bonjour.
Voilà, chacune est devant son micro. Multiprimée en 2010, Norma Percy, vous vous êtes vue remettre le prix Orwell pour votre engagement et pour votre œuvre qui reformule des événements clés de l'histoire en montrant son visage humain. Des femmes, des hommes impliqués à changer, parfois inverser le cours de l'histoire. Comment se fabrique-t-elle dans le regard de ceux qui contribuent à la faire, cette histoire, dans les coulisses du pouvoir et donc de l'histoire contemporaine, images d'aujourd'hui, archives, photos, recueils de témoignages, longs entretiens avec des hommes de l'ombre et des responsables de premier plan, Yasser Arafat, Ariel Sharon, Jimmy Carter, Colin Powell, Bill Clinton, Slobodan Milosevic et là, Obama. Norma Percy, comment vous l'avez convaincu de témoigner devant votre caméra ?
With difficulty.
Ça n'a pas été facile.
With it took a lot of time,
ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup de lettres.
What we try to do is show what it's like inside the room. We like
notre objectif, c'était de montrer en fait ce qui se passe vraiment, ce qui se passe vraiment à l'intérieur, au moment où qu'est-ce qui se passe dans la pièce où une grande décision politique est prise.
We look at the really big conflicts.
On s'intéresse aux grands conflits, Israël et les Arabes, l'Iran. Et on regarde le moment précis où un gouvernement décide d'aller en guerre, de signer la paix. Et c'est des moments où effectivement les caméras ne seraient jamais autorisées. Donc on essaye de parler à tous ceux qui étaient là à ce moment-là, tous ceux qui ont participé à cette prise de décision, le président, le premier ministre, les différents conseillers. Et ensuite, on essaye de rassembler tout ça pour donner aux spectateurs l'impression qu'il était là. Quand on a commencé à travailler sur la présidence d'Obama, on savait qu'il fallait qu'on l'interviewe et on avait le luxe d'avoir du temps devant nous. Hein. Parce qu'évidemment, si on avait appelé la Maison-Blanche pour dire, voilà, est-ce qu'on peut avoir une interview avec Obama pour dire comment il a fait sur telle et telle chose, ses conflits avec le Congrès, etc. Ils auraient dit non, bien sûr. Donc en fait, il faut y aller très, très, très doucement pour obtenir les choses. Et on a commencé en 2013 ce film, en septembre, et notre premier rendez-vous avec le bureau de presse de la Maison-Blanche, il a fallu qu'on explique qu'on était différent de la plupart des journalistes et qu'on était vraiment en train d'essayer de travailler sur l'histoire des grands moments de cette présidence Obama. Et après, donc, voilà, les républicains ont effectivement fait une espèce d'OPA sur le gouvernement, il n'y avait plus personne, donc tout s'est arrêté pendant deux semaines, et puis finalement on a réussi à rencontrer les gens de la Maison Blanche, et ils nous ont dit d'accord, on aidera votre demande, mais vous devrez persuader toutes les autres personnes vous-même, donc on a écrit beaucoup de lettres, et ces interviews donc, ont duré pendant deux ans, hein, beaucoup d'interviews et finalement on a donc interrogé 89 personnes pour ces 4 heures de programme.
Alors comme partout, la communication politique est cruciale aux États-Unis aussi, si ce n'est encore plus. Est-ce que c'est lui qui a longtemps hésité à vous accorder ce long entretien ou est-ce que c'est son entourage, son staff, comme vous dites, qui a tenté de le protéger? Et le protéger de quoi? Ce qui est particulier avec ce témoignage, ce documentaire, c'est que il était encore ou il est encore en exercice quand vous le rencontrez. Et du coup, c'est quand même assez particulier de faire le bilan d'un homme alors qu'il n'a pas du tout fini son deuxième mandat. Qu'est-ce que vous vouliez saisir à ce moment-là?
What were you looking for? I think the thing that prevented them most of all is time.
Je crois que, effectivement, l'obstacle le plus grand, c'était le temps, bien sûr, parce qu'il était encore président, et c'était pas facile, quand on a besoin de se confronter à des questions de guerre ou de paix, de trouver 30 minutes pour une interview. Donc, il a fallu les persuader que ça, c'était de l'histoire, et que les gens auraient besoin de savoir comment les décisions avaient été prises. Et évidemment, c'est quelque chose que, voilà, on n'est pas vraiment prêt à dire tout de suite comment on a pris les décisions. Il a fallu le convaincre qu'on serait juste, parce qu'on donnerait effectivement la parole aux différentes parties en présence. On essaierait de parler à toutes les personnes qui étaient impliquées. Il faut évidemment savoir tout ce qui s'est passé avant de approcher Obama. Donc, à chaque fois qu'on a appelé la Maison Blanche, on avait effectivement arrangé des interviews avec d'autres gens et on disait alors le président et il nous disait mais non, non, il faut attendre encore. Et ce n'est que deux semaines avant la fin en fait de notre travail sur le film que la Maison Blanche a commencé à nous prendre en considération.
Voilà en gros pour la démarche, effectivement votre démarche de documentariste. On va s'intéresser au contenu de ces quatre épisodes de cette série documentaire, Les années Obama, que vous signez donc pour Arte, Norma Percy. L'histoire comme si vous y étiez, c'est la promesse. Antoine Mercier est avec moi, j'imagine qu'il aura beaucoup de questions à vous poser parce qu'on va revenir effectivement sur 8 ans de mandat, de présidence Obama. The Limits of Hope Inside Obama's White House, c'était le titre en américain, devenu Les années Obama avec la voix de Juliette Binoche pour Arte, qui diffusera donc mardi soir prochain les 4 épisodes de cette série documentaire qui recouvre 8 ans d'exercice, 2 mandats du premier président noir des États-Unis, une crise économique, un plan de relance, des promesses non tenues ou mal tenues comme Guantanamo, l'Obamacare, 8 ans de politique étrangère, un prix Nobel de la paix, des discours d'investiture du Caire, d'Oslo, de Philadelphie, les violences raciales, le lobby des armes, les républicains, le Tea Party. Beaucoup de choses donc à travers ces 4 films. Homme providentiel, optimiste, protecteur, combatif, humble, Barack Obama est l'homme de tous les combats qui n'a pas gagné de guerre, juste quelques batailles, mais qui laissera assurément une trace dans l'histoire.
Everybody all set?
Yes, we can! Yes, we can!
You and I, we're gonna change this country, and we will change the world!
4 novembre 2008, les États-Unis viennent d'élire leur premier président noir.
By the time I was president-elect, I had a good sense that we were in the midst of a major crisis.
6 semaines après son investiture, Obama lance le chantier le plus ambitieux de sa présidence.
But I'm confident if we come together and work together, we will finally achieve what generations of Americans have fought for and fulfill the promise of healthcare in our time. So, let's get to work.
Barack Obama est président depuis 6 mois. Il arrive en Égypte pour prononcer un discours très attendu.
Assalamu alaikum. I know there has been controversy about the promotion of democracy in recent years. And much of this controversy is connected to the war in Iraq.
Les dernières années d'Obama au pouvoir sont marquées par le retour en force de la question qui a façonné son identité.
When Trayvon Martin was first shot, I said that this could have been my son.
L'histoire dont il parle est celle des rapports tendus entre la communauté noire et les forces de l'ordre.
When I meet young activists and civil rights leaders, I want them to feel impatient. I want them to feel outrage. But I also want to remind them that in fact progress is possible.
Norma Percy, Barack Obama, c'est quand même d'abord un corps investi dans le champ politique. Et quel corps, agile, souriant, avenant, extrêmement mobile. Comment ne pas être séduit par ce personnage?
Part of the politician's job to.
Ça fait partie du travail du politicien de faire passer son message.
It's a big advantage.
Et je crois que c'est un gros avantage.
Évidemment,
il séduit parce qu'il arrive à résumer les choses tellement clairement, et puis il arrive aussi à mettre ses arguments en avant de manière forte, hein, et il est effectivement très persuasif. J'admets comme vous qu'il est plutôt très beau, mais d'abord et avant tout, c'est un grand communicateur. Et peut-être que d'une certaine manière, c'était un désavantage pour lui d'être porteur de tant d'espoir quand il est arrivé au pouvoir, le fait qu'il était différent, qu'il amènerait le changement et qu'il allait pouvoir effectivement faire fermer Guantanamo, amener un nouveau système social, que la politique au Moyen-Orient serait différente de celle de Bush. Hein. Tout le monde, on avait tous un espoir. Et quand on a commencé le programme, et puis des années plus tard, la situation était très différente. La droite le détestait dès le début et elle l'a toujours détesté. Mais au moment où on a commencé notre programme, tous les gens de gauche qui avaient cru en lui étaient très désillusionnés. Ils se demandaient pourquoi il n'avait pas fait ça, ça, ça et ça. Hein. Je crois que c'était d'une certaine manière la mission que nous nous étions donnée, c'était de comprendre sans doute pourquoi cette désillusion et cette déception.
Antoine Mercier.
Vous avez parlé du Moyen-Orient, vous avez parlé tout à l'heure, on a entendu le discours du Caire, très important comme discours fondateur. Il y a eu les révolutions arabes, évidemment, pendant sa présidence, et cette décision de ne pas intervenir en Syrie, dont vous dites qu'il est très fier. Est-ce que sur cette ligne-là, pour prendre cette première séquence, est-ce que vous diriez que, paradoxalement, il a rempli ses engagements en n'engageant pas les États-Unis à tort et à travers, comme auraient pu le faire les conservateurs, les républicains? Ou est-ce qu'il y a aussi un échec là?
It's a good question, and I think you put your finger on
the bonne question, je crois, et je crois que vous avez mis le doigt sur la partie la plus complexe et la plus nuancée de sa politique. Comme vous l'avez dit, le discours du cœur, c'était dire je ne suis pas George Bush et je vais d'une certaine manière nous sortir du bourbier moyen-oriental. Et je crois que les gens l'ont cru, et puis finalement les printemps arabes sont arrivés, il lui a fallu repenser la chose. Et lorsque les Arabes ont commencé à réfléchir au progrès, particulièrement en Égypte, parce qu'il y avait des liens si forts entre l'Égypte et les États-Unis, Barack Obama s'est trouvé très efficace. Évidemment, au début, il était déchiré entre Hillary Clinton et son secrétaire d'État à la Défense, qui disait, voilà, l'Égypte est notre plus gros allié au Moyen-Orient, ils nous ont aidés dans notre travail sur le processus de paix. Et il a commencé comme ça. Puis petit à petit, il a vu ce mouvement démocratique dans la rue. Et ce que le programme montre très très bien, c'est comment, en fait, il a compris qu'il ne pouvait pas retenir tout ce mouvement de la jeunesse. Il a pris son temps, il a parlé avec Moubarak, et là, il s'est dit, c'est trop. Et il a utilisé la persuasion et les liens que l'Amérique avait avec le Moyen-Orient pour persuader Moubarak de quitter le pouvoir. Et je dirais que d'une certaine manière, la crise égyptienne a été le moyen de comprendre qu'il n'allait pas intervenir de la même manière. Et puis, un mois plus tard, lorsque le printemps arabe gagne la Libye est un pays beaucoup plus complexe, et c'est la première fois en Libye où il doit vraiment reconsidérer sa politique et se demander s'il doit commander une intervention avec les forces armées ou pas. Et il se disait, voilà, je suis en train d'arrêter deux guerres en Irak et en Afghanistan, j'ai vraiment pas envie d'en commencer une autre. Et Hillary Clinton, qui était sa secrétaire d'État à l'époque, était très inquiète. Hein, parce... Mais elle est venue à Paris et, pour rencontrer Sarkozy, et Sarkozy était tellement enthousiaste à l'idée d'éviter un massacre. Hein. Et on voit dans le programme, donc, cette réunion où Obama est en train de repenser sa politique, hein, et finalement, il va décider pour l'intervention américaine. Il espérait que, effectivement, l'Amérique allait intervenir seulement par des frappes aériennes et que les forces armées seraient françaises et britanniques et que l'Amérique n'interviendrait pas. Mais voilà, mais pour la Syrie, après ça, le chaos est arrivé.
Pour la Syrie, il a retenu son bras, finalement, au moment où les autres, notamment François Hollande, étaient prêts. Quelques jours avant que la chose ne se produise. Est-ce que c'est un succès ?
Et oui, effectivement, la Syrie est arrivée après. Il a regardé le contexte et il l'a vu, je crois, comme les spectateurs verront le programme ce soir. Il s'est dit qu'il ne fallait pas intervenir. Et en 2012, Hillary Clinton et les généraux qui étaient autour de lui disaient peut-être devrions-nous intervenir. Et Obama, à ce moment-là, a dit non, on ne peut pas intervenir. Ces gens-là, en fait, sont juste en fait des aimables docteurs et pharmaciens et ils ne pourront pas se mettre face à une armée. Et la seule chose, disait-il, qui pourrait nous faire intervenir, et ils pensent toujours à l'Irak, hein. Ils sont allés en Irak pour essayer de trouver des armes chimiques, mais en fait, ils ne les ont jamais trouvées. Ils sont allés trop loin, trop vite. Et en Syrie, il s'est dit, voilà, je vais dessiner une ligne rouge.
On va écouter peut-être juste, Norma Percy, ce qu'il dit sur la Syrie, parce qu'il a mis devant votre caméra effectivement son bilan, celui de sa politique étrangère, en balance. Il y a eu des points positifs, ceux qui reconnaissent comme tels, comme l'Iran le nucléaire iranien, et puis cette Syrie pour laquelle il disait encore très récemment se faire beaucoup de cheveux de blanc.
I will tell you that I continue to be haunted. By what's happening in Syria.
Je veux vous dire que je continue d'être hanté par ce qui se passe en Syrie. Si j'ai appris une chose pendant cette présidence, c'est qu'on cherche constamment à voir si on peut faire plus, en sachant que certaines choses n'aboutiront pas et seront des tragédies. On ne réussit pas à tous les coups.
On ne réussit pas à tous les coups, Norma Percy. Barack Obama voulait quand même effacer les années Bush. Il voulait très clairement prendre le contre-pied de ces années très interventionnistes, changer la doctrine américaine en matière de politique étrangère. Alors certes, on ne réussit pas à tous les coups. Est-ce que globalement, pour vous, quand même, il y est parvenu ?
Well, I'm particularly interested in the question of what happened in Syria in August.
Je suis tout particulièrement intéressée par ce qui s'est passé en Syrie en 2013, en août 2013. Suddenly on the internet. Lorsque soudain sur l'internet on a vu que des armes chimiques avaient été utilisées et qu'on avait vu donc Assad avait utilisé des armes chimiques, Obama avait bien dit que c'était là sa ligne rouge et donc ils ont commencé à se préparer pour une intervention et on a fait beaucoup d'interviews sur cette question, hein. Il y avait donc cette préparation d'une intervention militaire et Obama avait changé d'avis. On ne savait pas vraiment pourquoi, en fait. On avait tous les éléments de l'histoire. Il était prêt à demander des bombardements pour ce week-end-là. Et quelques heures plus tard, il organise une réunion. Il dit, voilà, j'ai changé d'avis. Et donc, voilà, il l'a dit à son état-major, mais il ne l'a dit à personne d'autre. On a fait beaucoup d'interviews et on trouvait que c'était un sujet extrêmement intéressant. Mais on a presque abandonné ce sujet-là parce qu'évidemment, sans l'interview à Obama, on ne pouvait pas savoir pourquoi. Et les producteurs à Arte et à la BBC disaient, mais vous ne pouvez pas raconter cet élément-là sans dire pourquoi, finalement. Et quand j'ai interviewé Obama, bien sûr, la première idée que j'ai eue, c'était, on va pouvoir lui poser la question pourquoi il a renoncé à cette intervention militaire. Et voilà, vous devez juste, en fait, convaincre quelqu'un comme ça de dire les choses devant la caméra, de répondre aux questions.
La réponse ? La réponse de Obama, on a de la connaître.
So the answer is, first of all, there was the vote in the British House.
D'abord, il y avait ce vote dans les House of Commons de Grande-Bretagne, hein, et les Britanniques ont voté contre. Et là, il a dit, on n'est jamais entré en guerre sans nos alliés britanniques, donc il s'est senti très exposé. Et les avocats ont dit, hein, dans cette réunion, dans votre campagne, vous avez parlé de la difficulté difficulté à l'intervention militaire. Et donc, il répond, en fait, hein, à son avocat de manière très, très irritée. Je sais ce que j'ai raconté pendant ma campagne. Mais il avait besoin d'être sûr d'avoir un soutien populaire pour faire ça. Et ce qu'il allait faire, c'était essayer d'amener les choses au Congrès pour que ça soit voté. Et il s'est dit qu'il avait besoin, en fait, de l'opinion militaire. Et quand il a présenté cette idée au Congrès, ça ne se passait pas très bien.
C'était couru d'avance hein, que le Congrès allait voter, non?
Oui, mais en même temps, les présidents croient en leur pouvoir de persuasion, particulièrement quelqu'un aussi charmant qu'Obama pensait qu'il pouvait convaincre. Et effectivement, il avait un meeting du G20 avec Poutine, et évidemment, Poutine ne voulait pas d'un bombardement américain, hein, puisque c'est un allié. Et effectivement, Poutine a dit, voilà, on va essayer d'arrêter cet usage d'armes chimiques. Il y a eu, d'une certaine manière, un arrangement entre Poutine et Obama et une pression de Poutine sur Bachar el-Assad pour éviter d'utiliser les armes chimiques. Et ils ont essayé de faire ça, hein, de convaincre Bachar, et ça a fonctionné pour une fois. Et ce qu'a dit Obama pendant cette interview, il a parlé de cette action en 2013, et c'est la chose dont je suis le plus fier de toute ma présidence, parce qu'il y a toujours une pression sur les présidents pour aller là où il y a des problèmes dans le monde et intervenir militairement et arriver à régler cette crise-là juste par la diplomatie et la discussion. Et un peu plus tard, les choses ont mal tourné en Syrie, bien sûr, mais la perspective qu'il avait à ce moment-là, c'était ça la chose sensée à faire. Et on vous montre dans le film comment Obama fait les choses, et c'est aux téléspectateurs de décider si c'était une bonne ou une mauvaise décision.
Les années Obama, mardi sur Arte, notre invitée, la documentariste et réalisatrice Norma Percy est avec nous, la documentariste, réalisatrice et productrice américaine. France Culture, il est 13h16.
France Culture. La grande table, Olivia Jesbert.
Alors, pas facile, Norma Percy, pour Barack Obama, ses conseillers, ses proches démocrates, de reconnaître quand même l'entière responsabilité de certains de leurs échecs. L'opposition républicaine est souvent mise en avant comme ayant tenté de noyauter, d'empêcher, d'obstruer des décisions importantes. Et on se rend compte que, bah oui, aux États-Unis, notamment, la démocratie implique de négocier avec son adversaire. As president, you have to deal with the unexpected. Voilà ce qu'il dit devant votre caméra. Négocier avec l'inattendu. Est-ce qu'il était mal préparé, quand même, ce président, Barack Obama, à la réalité de l'exercice du pouvoir?
Il était mal préparé, sans doute, parce que les choses n'avaient jamais été comme ça. Hein. Les Américains admirent tellement le pouvoir, en fait, hein, qu'ont les présidents en France, par exemple. Mais les présidents américains doivent être en négociation constante avec le Congrès. Et il y a eu cette négociation. Ils ont fait quelques concessions, mais avec Obama, il avait fait une campagne en disant qu'il essaierait d'être le président de tous, et les républicains se sont dit, mais non, on ne vous laissera pas être le président de tout le monde. Donc, quand Bush a dû, en 2008, hein, se colter avec la crise financière, il a réussi à faire passer ses mesures. Mais 6 mois après, Obama arrive, il doit amener un plan de relance pour éviter que la crise financière devienne la pire pire récession depuis les années 20, les années 30. Et il y a un moment où l'un de ses alliés au Congrès va voir quelqu'un du côté républicain et c'est une ancienne amoureuse et ils essayent effectivement de réfléchir à comment ils pourraient imaginer un paquet de mesures qui pourrait fonctionner, voilà. Et il lui dit, voilà, on pourrait faire ça et ça si vous nous aidez. Et puis, elle le regarde en riant et elle lui dit, mais on ne va pas coopérer avec vous et sur rien du tout. Et donc, d'une certaine manière, cette absence de politique collaborative ne s'était jamais produite, donc il ne pouvait pas être préparé.
Norma Percy, Barack Obama, on le disait, c'est un corps, c'était aussi un symbole d'espoir et un symbole d'égalité qui l'incarnait directement comme homme afro-américain, métisse. Et c'est une qualité, celle de réunir toutes les facettes de l'Amérique, qu'il a mise en avant dès les premiers jours, et notamment à travers son discours de Philadelphie en mars 2008. Et il a continué à poursuivre sur cette veine-là tout au long de ses deux mandats, son action, sa parole. Dernière image d'ailleurs de votre série documentaire, c'est Obama en tête de cortège en vue du 50e anniversaire de la marche pour le droit de vote des Noirs aux États-Unis. Nous, le peuple, en vue de former une union plus parfaite. Voilà les mots du discours. Cette union parfaite, après les émeutes de Ferguson, on se rend bien compte aujourd'hui que la fin de son second mandat est particulièrement marquée par les violences raciales. Est-ce que ce sera pour vous l'un de ses principaux échecs de ne pas avoir réussi à incarner ce rassemblement, à réunir le peuple américain ?
Perhaps more disappointment than failure.
Alors peut-être pas vraiment un échec, mais une déception. On pensait qu'avec l'élection d'un homme noir, ça allait être la fin, en fait, de la question raciale. Et on s'est aperçu qu'en fait, ce n'était pas le cas. Et particulièrement vers la fin de sa présidence, ce qu'a dit Obama, c'est que, voilà, il a réalisé que une seule personne ne peut pas tout faire, mais ce qu'il dit, en fait, à ces jeunes militants afro-américains qui viennent dans son bureau très très impatients, il leur dit tout ce que nous pouvons faire et essayer d'influer le cours de l'histoire. Et il le dit, voilà, nous passerons le témoin comme dans une course de relais au président suivant. Et ça, on peut effectivement manifester, on peut s'exprimer, mais la violence ne vous mène nulle part. Ce qui compte, c'est l'action politique qui, au bout de répétition, finira par atteindre son but.
Oui, je voudrais revenir sur la place des États-Unis dans le monde. Vous avez expliqué tout à l'heure concernant la Syrie qu'il avait été très fier de, j'allais dire, retenir sa force, retenir son bras. On a eu le sentiment qu'après les présidences républicaines de Bush notamment, Barack Obama allait jouer sur le soft power plutôt que sur la guerre et l'intervention directe. À ce titre-là, est-ce qu'il n'a tout de même pas réussi à maintenir l'influence américaine, malgré ses échecs, en essayant de transformer précisément l'influence militaire en influence, en maintien d'une influence intellectuelle, culturelle en général, au sens très large, de la recherche, de l'innovation? Les États-Unis restent malgré tout cette grande puissance qu'elle était. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que peut-être ça sera difficile pour le successeur d'avoir ce nouvel élan pour dire « oui, l'Amérique reste grande quand même ». Quel jugement portez-vous sur cette capacité, précisément, à maintenir l'influence américaine en dépit d'une politique de retenue globale ?
Je crois que c'est le travail même du président des États-Unis d'arriver à maintenir en fait une sécurité. C'est comme ça qu'il le dirait, mais je crois que ça a à voir aussi avec l'influence. Il dit aussi dans le film, lorsque les gens parlent de tous ces immigrés latino-américains qui veulent venir illégalement aux États-Unis, il dit ce n'est pas mon travail, en fait, de il dit je m'inquiète de m'inquiéter des enfants de ces gens-là, mais mon premier travail est de me soucier des Américains, vraiment. Et c'est ce qu'il a fait, et c'est pour ça qu'il a été élu. Hein. Et je crois que la politique, effectivement, étrangère sur les questions d'intervention ou de non-intervention, c'est sans doute ce qu'il a tenu éveillé la nuit, hein, parce que c'est toujours une décision très difficile, parce que, voilà, après, effectivement, si la mérite est agressée, comme lorsque les Japonais avaient bombardé lors de la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, vous intervenez, vous répliquez, mais il y a des moments où ce n'est pas si simple. Et je crois que Obama n'avait pas forcément une grande expérience de la politique étrangère lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Et effectivement, puisque nous l'avons rencontré si tard lors de son mandat ou de ses mandats, je crois que c'était le moment où effectivement il était en pleine réflexion sur la politique qui avait été la sienne.
Dans les années Obama, Norma Percy, dans votre documentaire, votre film, il y a un rythme, un découpage qui est très soutenu. Ajoutez-y de la musique hein, pour souligner à la fois le suspense, l'exaltation, la détermination, les peines, les retournements de situation. Vous nous présentez vraiment un président qui fait front à l'immobilisme, hein, un président en action, au risque parfois d'enjoliver un tout petit peu le réel. Mais ce qui est intéressant, c'est cette notion d'homme dans l'histoire que vous avez en permanence cherché à développer à travers vos films. Je suis sûre qu'avec le temps, même dans 20 ans, on sera satisfait du travail accompli, dit Obama devant votre caméra, qui inscrit donc son action dans le long terme. À quel titre, pour vous, au final, va-t-il vraiment réussir à s'inscrire dans l'histoire ? Comme homme, comme symbole, pour son bilan ?
Well, I mean, what we do and what we say to the people we interview
is ce qu'on dit aux gens.
Let me go back one step.
L'interview. Alors, je vais faire un petit retour en arrière, quelque chose d'un peu polémique. Je pense que la plupart des politiciens sont des hommes raisonnables, ce qui veut dire qu'ils réfléchissent en fait pour les bonnes raisons. Et ce que nous faisons, c'est en fait leur donner la possibilité d'expliquer ce qu'ils ont fait et de dire pourquoi ils l'ont fait. Et c'est au spectateur de décider si ces raisons sont bonnes ou mauvaises, mais ils ont toujours des raisons pour agir. Obama, en particulier, hein, quand on l'a interviewé, donc dans la 7e année de son mandat, il réfléchissait à pourquoi il avait fait les choses et si les choses avaient fonctionné ou pas. Il le faisait de manière honnête. Et il y a des fois où il s'est trompé, des fois où il ne s'est pas trompé. Mais il y aura effectivement un véritable héritage des années Obama, par exemple cette assurance maladie universelle. 7 présidents avant lui avaient essayé. Il a fait le premier pas de cette réforme-là. Son premier sommet sur le changement climatique à Copenhague, hein, et c'est incroyable cette histoire, comment il va s'imposer en fait dans une réunion que les Chinois sont en train d'avoir avec leurs alliés pour ne pas signer et pour ne pas avoir de limite sur les émissions carbone.
Mais Norma Percy, aujourd'hui, en 2016, après 8 ans de modération, de compromis, d'une présidence à arrondir les angles, à tenter de déminer certains états de violence, les États-Unis pourraient peut-être être tentés par le risque, pour reprendre l'hypothèse formulée ce mois-ci par le monde diplomatique. Ça va peut-être être sa plus grosse responsabilité à Barack Obama, celle d'avoir ouvert la voie à un personnage comme Donald Trump.
It's really ironic that a president who wanted to unite the nation.
Oui, c'est très ironique de voir que un président qui voulait unifier la nation finalement a fait que tant de tensions se fassent jour. Et effectivement, voilà, toutes ces grandes réussites, l'Obamacare, l'accord nucléaire avec l'Iran, et c'est incroyable de penser que ce qui va lui survivre pour l'instant, ça va être ces grandes tensions qui se sont fait jour dans la nation américaine. Mais on ne peut pas dire.
Merci beaucoup à vous, Norma Percy. Je rappelle que cette série documentaire, donc en 4 épisodes, sera diffusée mardi prochain sur Arte. Les 4 épisodes dans la foulée. Voilà pour revisiter 8 ans de présidence Obama. Un grand merci à vous, à toutes les deux. Merci à toute l'équipe de la Grande Table qui m'a aidé à préparer ces émissions cette semaine. Aujourd'hui encore aux manettes, Perret Legras avec Élise Leu. Je vous dis à lundi.